Bienvenue sur Bip Bip. Je suis Alexandre, doctorant en psychologie sociale et entrepreneur. J'ai lancé ma thèse alors que j'étais au chômage et aujourd'hui je la finance grâce à des missions de recherche, de formation et de conseil. Ce podcast de Build It Public est là pour te montrer l'envers du décor de mon autofinancement de thèse, mais surtout t'inspirer, te motiver et te partager ce qui a marché, ou pas, dans mon parcours pour que tu puisses avancer toi aussi dans l'entrepreneuriat, le doctorat ou comme moi, les deux en même temps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très explicatif de ce que je vis en ce moment, qui est celui de devoir travailler n'importe où et n'importe quand. Encore une fois, épisode problème de riche, mais qui j'espère pourra vous parler à ceux qui font une thèse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup en thèse qui essayent de travailler pendant les vacances et qui pourront travailler à des wannabe entrepreneurs qui ont envie de travailler un petit peu n'importe où. Et du coup, j'ai envie de vous exprimer ce que je vis sur le sujet de devoir travailler n'importe où. Donc d'abord, je vais vous remettre dans le contexte. Ensuite, je vais vous expliquer le problème, les problèmes, et puis les solutions que j'ai essayées, auxquelles j'ai pensé, mais qui ne sont pas adaptées pour moi, ou tout simplement que je n'ai pas encore essayé. Alors, pour expliquer plus en détail, le sujet du jour, c'est celui de devoir travailler soit par la force des choses, soit parce qu'on a envie d'adopter ce rythme-là dans différents milieux. Pas chez soi, pas dans son bureau, en vacances. Et en fait, moi, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai ce rythme-là, parce que je l'ai décidé en partie, mais aussi parce que je le subis. Alors, ça peut être subi parce qu'on a des formations à droite à gauche, parce qu'on a des prestations ou des raisons professionnelles qui nous obligent à bouger. Et ça peut être volontaire pour des vacances ou parce qu'on a envie de profiter de cette liberté. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes en thèse et d'autant plus en entrepreneuriat, l'envie de liberté. Mais j'aimerais aujourd'hui parler un peu plus précisément du fait de à quel point c'est compliqué de travailler de n'importe où. Je pense qu'il y en a, ça leur saute aux yeux, hein, ce sujet de dire évidemment, moi, j'y arriverai pas. Mais je vais essayer de donner un peu plus d'arguments et de, encore une fois, dans l'objectif du podcast, de mettre à plat ce que je vis, essayer de vous ouvrir une fenêtre sur ma vie professionnelle et de vous montrer ce que j'essaye, ce à quoi j'ai pensé et les réels problèmes auxquels je fais face. Alors, pour rappel, je suis quand même de nature assez organisée. J'écris la plupart de mes rendez-vous, j'ai des notes sur des feuilles écrites, j'ai des dossiers, je suis assez bien organisé sur mon PC, surtout depuis un gros effort sur une organisation numérique, avoir un gestionnaire de mots de passe, avoir plusieurs adresses mail où j'ai tous les comptes, voilà, tout est assez carré. Mais il y a quelques mois maintenant, j'ai un rythme de vie beaucoup plus aléatoire. Et donc ça a été très difficile de caler ma personnalité très carrée à un train de vie aléatoire où je peux travailler à droite à gauche. J'espère que c'est un témoignage qui pourra en parler à certains de vous, parce que je sais qu'il y en a certains qui se diront oui, on c'est pas fait pour moi, je suis pas capable, etc. En fait, je pense que c'est plus complexe que ça et qu'encore une fois, on peut essayer de d'autant plus trouver une solution à qui on est et à notre contexte plutôt que se refuser une belle expérience qui pourrait être l'entrepreneuriat, le doctorat ou les deux. Et donc, ce que je peux te faire part, c'est que je suis quand même un profil à ne pas aimer ça, travailler n'importe où, dans différents pays ou dans différents lieux. Mais un peu comme ce que je t'ai transmis la dernière fois, on finit toujours par s'y faire, même si fondamentalement, je sais que ce n'est pas un rythme de vie que je vais aimer pendant longtemps. En revanche, il y a quelques petits trucs et astuces à partager, et puis au moins je peux te partager les vrais problèmes plutôt que de dire c'est pas fait pour moi. Essayer de présenter de manière plus large ce que ça renvoie. Donc aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai voulu appeler mes trois activités, ma thèse, mon entreprise et ma vie personnelle. Donc j'ai toujours dit que c'était pas un podcast où j'allais raconter ma vie, mais j'ai des événements de vie et des envies de vacances qui ont fait que je n'avais pas forcément un logement fixe pendant ces derniers mois et que je suis allé à droite à gauche pour travailler. Et donc, j'ai fait face à beaucoup de sujets de ce que je peux appeler la charge mentale des déplacements. Encore une fois, mes excuses, problème de riche, j'en suis conscient, Mais problème de nouvel entrepreneur ou de nouveau doctorant. Et au-delà d'être riche, c'est aussi si demain vous lancez, tu te lances, pardon, j'ai dit que je te tutoyais, tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu commences à avoir des missions à droite à gauche, il faut savoir s'adapter et travailler un peu partout. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait face à quelques difficultés que j'aimerais te partager, dont j'aimerais te faire part. Par exemple, la première difficulté à travailler à côté, c'est il faut être super organisé numériquement. C'est-à-dire que plus tu peux travailler uniquement sur ton PC, mieux c'est. Moi, j'ai la mauvaise manie d'avoir des dossiers. J'ai un dossier par client, donc une fiche cartonnée dans laquelle je mets mes notes. J'essaye de le faire de moins en moins et j'avoue que prendre l'habitude et essayer de trouver une manière d'être à l'aise pour prendre des notes et avoir un dossier partagé potentiellement avec le client sur ce qu'on a à faire, c'est pas mal parce que plus on peut travailler uniquement avec son ordi, mieux c'est. Un frein que j'ai pu trouver, c'était celui du besoin d'avoir plusieurs écrans. Moi, j'ai quand même pris l'habitude de travailler avec plusieurs écrans. Et aujourd'hui, il y a des tâches où je préfère quasiment pas la faire maintenant, même si je suis en retard, plutôt que donc avec un seul écran, et d'attendre quand j'aurai deux écrans, parce que c'est une habitude. Donc, à la limite, je peux te conseiller de trouver l'habitude de travailler toujours avec ton PC. C'est ce que les digital nomades font. Moi, j'ai un petit peu du mal. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à se décentrer de son organisation bureautique et de pouvoir le plus possible ne travailler qu'avec son PC. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est pourquoi pas imaginer travailler uniquement sur des tâches que tu sais pouvoir faire à distance. C'est ça aussi le sujet. Moi, par exemple, le fait de rédiger un article, je sais qu'il me faut juste un PC et une connexion Internet quand même pour des recherches, pour ChatGPT. Et voilà, la créativité est limite mieux en dehors de chez moi. Donc, y a aussi, il faut savoir séparer les tâches par rapport à ce qu'on souhaite faire. Ensuite, le plus gros problème, en fait, qui me pèse beaucoup et qui fatigue énormément, c'est la charge mentale associée à la logistique des déplacements. Ça, c'est ce qui est le plus représentatif de mes dernières semaines, bouger à droite à gauche, mais surtout avoir quasiment, peut-être que je force un petit peu, mais avoir beaucoup de temps de réflexion, de train, de taxi, de logement, et que ça te passe quasiment devant la charge mentale que je pourrais avoir pour la thèse et pour le travail. Ce qui pose problème quand même, parce que je pense que financer sa thèse était déjà assez ambitieux. Si en plus je dois rajouter un train de vie bizarre où je dors à droite à gauche, où je me déplace à droite à gauche, eh ben, ça rajoute de la charge mentale de déplacement. Et c'est un peu ça qui m'a surpris ces derniers temps. J'ai pas vraiment voulu adopter un train de vie en disant ça y est, je suis digital nomade, je vais à droite à gauche. Mais le fait est que j'ai voulu être opportuniste sur des opportunités. Tiens, je vais là, mais je vais pouvoir travailler. Tiens, je prends des petites vacances avec un tel, mais je vais quand même travailler. Et ça m'a amené à travailler dans différents milieux. Et ça a ramené des frictions, donc d'organisation, de travail, etc. Même si maintenant je sais sélectionner les tâches que je peux faire avec ou sans. Mais surtout, en fait, de logistique et de fatigue de déplacement et de se préparer à se déplacer et d'organiser. Donc, voilà pourquoi je fais cet épisode, parce que ça représente vraiment ce que je vis. Et y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous quand on décide d'avoir ce train de vie. Comme je l'ai dit déjà, s'organiser numériquement, mais au-delà de s'organiser numériquement, c'est aussi savoir transformer ce qu'on fait en process, devenir des professionnels sur chaque process qu'on a à faire. Je prends un exemple. En ce moment, je suis en déplacement pendant que je dois faire des entretiens pour un client, donc m'entretenir avec des personnes et leur poser des questions. Et ben, je me rends compte, mais par seulement l'expérience et l'habitude, que avec le temps, je n'ai plus de problème à faire ces visios n'importe où parce que je connais mes questions parfaitement, je connais mon guide d'entretien parfaitement, je connais le process, je sais ce que je dois dire à la personne, tout a été testé et donc je sais que j'ai juste à cliquer sur un lien Google Meet. Moi, je connais mon guide par cœur, je sais dans quel dossier il est sur mon PC et boum, aucune friction pour pouvoir faire ma mission. Et donc maintenant, je sais et je l'ai fait que je peux faire cette réunion, ces rendez-vous, ces entretiens, n'importe où, tant que j'ai une connexion Internet. Et c'est rassurant. Et en fait, c'est venu avec l'expérience d'avoir son travail comme un process et donc d'être un peu plus carré sur l'exécution et de pouvoir l'exécuter un peu n'importe quand. Donc en fait, je pense que pour avoir un style ou un train de vie où on travaille n'importe où, il faut beaucoup réfléchir en amont sur quel process peut faciliter notre travail en termes surtout d'organisation. Et qu'est-ce qu'on est sûr qui fonctionne? Malheureusement, ça marche beaucoup avec l'expérience. À force de tenter les choses, bah, on se rend compte qu'on a l'habitude et que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Mais on peut quand même réfléchir à comment organiser son travail, sa manière de travailler pour de plus en plus et bah, pouvoir travailler facilement, en fait. Parce que c'est sûr que de ne pas travailler chez soi, ça rajoute de la difficulté. Donc s'il y a un effet de contexte qui rajoute de la difficulté, je pense qu'on peut contrebalancer avec... de l'organisation ou du travail pour faciliter cette organisation et faciliter cette difficulté qu'on a malheureusement gagnée en travaillant hors de chez soi. Moi, j'ai essayé pour le coup, pour le côté logistique, bouger à droite à gauche, faire les trains, les avions, les logements, etc. Je pense que, et ça me revient un peu plus souvent sur d'autres types de tâches, il faut savoir aussi se donner un temps à allouer pour gérer les problèmes sur un sujet à un moment donné. Le problème avec la charge mentale, et je pense que c'est un sujet qui est revenu et qui existait déjà sur le fait d'avoir plusieurs clients, le problème avec la charge mentale, c'est que quand on commence à vouloir penser à tout en même temps, on se perd totalement. Et on peut largement gérer 10 clients, une thèse et un train de vie à droite à gauche si on est organisé. En tout cas, c'est la croyance que j'ai. Si on commence à ne pas être organisé, à se lever, bon, j'espère que vous vous lavez, mais à se lever du coup le lundi matin en se disant je dois penser à mes 8 clients, où je vais demain, etc. On se crame les ailes en quelques semaines et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, quelque chose que je peux mettre en place moi mieux et en fait qui est un sujet qui vient à chaque fois qu'il y a un nouvel élément à gérer dans ma vie, c'est penser à chaque sujet à un moment donné, pendant une période donnée. C'est-à-dire, ce mois-ci, imaginons que vous avez un train de vie, enfin que tu as, c'est vrai que j'ai dit que je te tutoyais. Imagine que tu as un train de vie ou que cet été, c'est un peu le bordel, tu ne sais pas quoi faire. Tu prends une journée ou une demi-journée sur qu'est-ce que je fais, où je vais, je prends le billet de train, je fais ça, j'habite là. Et ensuite, tu n'y penses plus. Tu mets tout dans ton agenda et tu suis ce que tu as fait. Moi, j'ai fait l'erreur. Comme ce nouveau sujet dans ma vie est venu de bouger à droite à gauche, de me remettre dans un flot de pensée, à penser à tout, je dois faire ma thèse, je dois faire ça, et puis en plus je dois faire ça. Et quand on part dans des sujets comme ça, on est sous l'eau directement. Alors que je suis persuadé que pour la même charge de travail, si on se dit, là, pendant 2 heures, je règle mes déplacements, ensuite pendant 2 heures, je fais ma to-do list sur la thèse, ensuite pendant 2 heures, je fais ma to-do list entreprise. On fait ça un lundi. En reprise de vacances ou en fin de vacances, enfin, ou en fin de travail juste avant les vacances. Et je pense sincèrement que ça peut beaucoup aider. Moi, c'est ce que je me m'ordonne, c'est ce que je me promets de faire ces prochaines semaines. Reprendre avec calme, sujet par sujet, et que un sujet égale un moment. Globalement, le sujet, c'est le sujet du multitasking. Et plus on a de tasks, plus le multitasking est. Trop envahissant pour la charge mentale et pour le cerveau, et pour moi, mène à craquer, tout simplement. Donc, pour éviter le multitasking, tout simplement, arrêtez de faire plusieurs tâches en même temps. Une tâche, un moment, même si c'est 2 heures, même si c'est 1 heure. Mais en fait, quand on croit faire plusieurs choses en même temps, imaginez qu'on ait un disque dur ou qu'on ait un processeur, on a préchargé tous les logiciels en même temps. Donc oui, peut-être qu'on est capable d'avoir un focus 10 secondes là, un focus 10 secondes là, et encore, c'est peu probable. Mais en fait, le gros problème avec tout ça, c'est que quand on commence à faire plein de choses d'entrepreneuriat ou de thèse, eh ben, en fait, on précharge chaque sujet dans notre tête. Et on pense réfléchir uniquement à quel train je vais prendre, mais en fait, on pense à l'article sur lequel j'ai travaillé, sur lequel je travaille et le truc business sur lequel je suis en train de réfléchir. Tout est en train de fonctionner en tâche de fond. Et pour moi, c'est ce qui fait le côté overwhelming, le côté j'ai trop d'infos, crise de panique, j'en peux plus, je suis surmené. Je pense sincèrement qu'une raison du surmenage, c'est de avoir trop de choses préchargées en tête. Donc, voir sujet par sujet, et si le sujet du déplacement en est un pour toi, le régler une bonne fois pour toutes à des moments pondérés. C'est un peu l'idée que je me suis donnée des mails, et je vais essayer de réfléchir à une nouvelle organisation pour ma rentrée avec des choses beaucoup mieux, beaucoup plus précises. Des créneaux sur lesquels je veux prendre des rendez-vous, des créneaux sur lesquels je veux checker mes mails, des créneaux sur lesquels pas travailler sur ma thèse, etc. Parce que je te l'ai déjà partagé. Avoir des créneaux prédéfinis, là je travaille sur ma thèse, là je travaille sur l'entreprise, ça marche pas. En revanche, ce que j'ai oublié, en fait, à chaque fois j'affine mes stratégies d'adaptation, c'est que peut-être que ce type de fonctionnement, ça marche pour les choses qui sont transversales. Checker mes mails, je devrais toujours le faire. Et quand on check les mails un peu toute la journée, en même temps de travailler un peu sur sa thèse, en même temps de regarder quel train je vais prendre ou quel hôtel je vais prendre pour dans 2 jours, on a préchargé beaucoup trop de tâches. Et pour moi, ça mène à ce côté j'en peux plus, je suis dépassé, par lequel je suis passé. Si tu arrives dans le podcast, j'ai pas du tout un angle de donneur de leçons. Je suis en train de te dire quelque chose que j'ai compris cette semaine par rapport à une connerie que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc tranquille. Mais c'est ce que je vais essayer de faire les prochains jours en tout cas. Il y a aussi une autre technique qui correspond à d'autres types de profils qui ne sont pas le mien du tout. Monsieur K, si tu te reconnais, je fais part de ton expérience. C'est celui de lâcher prise totalement sur l'organisation et la logistique. Donc, comment gérer les problèmes de logistique quand tu te déplaces très souvent dans ton activité? Le faire au dernier moment. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me convient. En revanche, c'est une solution viable pour certains types de personnalités. Moi, j'ai un problème avec le contrôle, je te l'ai dit, donc il faut que je sache quel train je vais prendre dans 2 semaines. Mais il y a aussi le fait, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si tu ne penses pas au problème, il n'y a pas de problème. Et donc, si la charge de réfléchir à où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais faire, te pose problème, il peut y avoir une certaine habitude à faire les choses au dernier moment. C'est quelque chose qui fonctionne pour un de mes amis, donc je le partage. Même si ça ne correspond pas à qui je suis. Mais il me semble que lui se dit ah oui, demain, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je fais ça. Et puis, hop, essayer de lâcher prise sur ce sujet. Ça peut ramener à un train de vie d'autant plus loufoque et intéressant à vivre. Moi, je suis pas sûr d'être prêt à lâcher autant prise, en tout cas. Autre chose, par rapport à ce sujet de la logistique et du fait de travailler à droite à gauche et de la fatigue que ça peut entraîner, il y a une solution qui vise à. Arrêter de bouger en moins de 3 semaines. C'est-à-dire que si on bouge, on reste plusieurs semaines ou plusieurs jours. En fait, moi j'ai remarqué que ce qui me fatiguait d'autant plus, c'est que je faisais des 2, 3 jours où je bouge, où je refais mon sac. Parce que pareil, ça c'est quelque chose que je peux rajouter sur le fait de faire des process pour faciliter son trajet, son transport. Moi je suis passé aussi par des process de faire son sac. C'est-à-dire. Ça paraît archaïque, mais acheter plusieurs brosses à dents, acheter plusieurs types de, je sais pas, de brosses, acheter un petit parfum pour avoir son parfum général chez soi, mais un petit parfum, et en fait avoir une trousse de toilette qu'on ne défait quasiment jamais, voire en fait avoir quasiment un sac ou une valise qu'on ne défait jamais. Donc la meilleure manière de pouvoir voyager simplement souvent, c'est quasiment d'avoir une valise qu'on pourrait ramener partout ou avoir un sac qu'on pourrait ramener partout. Soit avoir l'habitude de le faire, soit carrément avoir tout en double et pouvoir hop, switcher. Bon, après, il faut laver les habits, etc. Donc, moi, c'était plutôt ce qui ne se lave pas reste quasiment tout le temps dans ma valise, donc dans mon gros sac. Et le reste, j'ai pris l'habitude de savoir quoi ramener comme habit et comme chose à prendre. Et on finit par prendre l'habitude de faire son sac rapidement parce que oui. Faire son sac, défaire son sac, réfléchir à ce qu'on doit prendre, ne pas oublier les choses. En tout cas, chez moi, c'est très personnel. Ça fait partie de la charge mentale associée à bouger partout. Donc, rendre son travail, mais aussi sa vie en process, commencer à être un petit peu expert de sa propre vie et savoir que, je ne sais pas, moi, j'ai un pied-à-terre pas loin de Paris. Je sais que si de mon pied-à-terre à Paris, je dois y aller, je sais que je dois prendre ça, arrêter, m'arrêter là, prendre tel truc. Pour enlever les frictions, on peut imaginer, si vous voyagez souvent à Paris, acheter beaucoup de tickets dans votre carte. Comme ça, vous arrêtez d'en racheter. Je sais que ça paraît bête, mais quand on bouge beaucoup, il faut commencer à organiser ce sujet de bouger beaucoup. Donc là, je vais totalement en contradiction du conseil qui est juste avant, mais voilà globalement la solution de processiser un peu toute sa vie et de se dire, mais comment je fais pour si je devais bouger toutes les 2 semaines pour que ce soit le plus simple possible. Ensuite, donc, bouger, bah, pas dans des timings trop courts, parce qu'en fait, on a à peine le temps de se poser, on a à peine le temps de décharger le sujet logistique qu'il faut changer, qu'il faut réfléchir à des vêtements, qu'il faut rentrer. Et moi, une de mes erreurs de ces derniers temps, c'est que je bougeais 3 jours, 2 jours, 1 jour, 1 semaine. C'est quasiment le maximum que j'ai fait, une semaine ou deux. Et en fait, on se fatigue d'autant plus. Donc, il faut aussi, pourquoi pas, envisager bouger d'autant plus. Passer 1 mois. Donc là, je dis, voilà, doctorant entrepreneur, on n'est pas obligé de faire 1 mois à Dubaï. Mais je sais que c'est un train de vie qui peut exister, même chez des doctorants. Je vais faire 2 jours chez un pote, ensuite je vais chez mes parents, ensuite je vais au labo. Et bah, envisage de essayer de faire 2, 3 semaines à un endroit, 2, 3 semaines à un endroit, 2, 3 semaines à un endroit, parce que ça fatigue très vite. Donc moi, je trouve qu'il y a un cap à 2, 3 semaines où on a moins l'impression de courir partout. Ça me fait penser dans tout ce sujet de remettre sur le tapis le sujet du train et le sujet d'une théorie qu'on voulait développer avec un ami en psycho, qui est la théorie du blocage. Alors qu'est-ce que c'est la théorie du blocage? C'est le fait de se savoir que dans une prochaine situation, on sera dans un tel état d'esprit, et donc de se mettre dans la situation pour être dans cet état d'esprit. Exemple, je sais que dans le train, soit j'ai peu de connexions, soit j'ai pas spécialement envie de faire n'importe quoi et de me divertir. Donc je vais me mettre dans un train parce que je sais que pendant ce train, si j'ai pas beaucoup de connexions, bah par exemple, je vais écrire un article et j'ai pas tout le temps besoin de connexion, ou je vais faire des analyses. Soit, vu que je sais que je suis dans un bon mood pour travailler, en fait, le train, c'est quasiment un investissement pour mon travail. Je sais que c'est des choses, enfin, en tout cas, moi, c'est des choses qui ont été très compliquées à faire le truc, de me dire, mais je dépense de l'argent, comment ça, c'est un investissement? Mais oui, en fait, quand on commence à voir son énergie comme monnayable, eh bah, si on arrive à se mettre dans une situation dans laquelle on a beaucoup d'énergie et on est productif, alors c'est un investissement. Et donc, on peut voir le déplacement comme un investissement sur son travail. Par exemple, dans l'avion, c'est un très mauvais exemple parce qu'on travaille mal. Mais par exemple, dans le train, eh ben, moi, je sais que je travaille bien. Donc aujourd'hui, il y a des trajets en voiture qui sont peut-être plus courts qu'un trajet en train, mais je le ferai quand même le trajet en train parce que je peux travailler, je sais que je travaille bien dans le train. Donc il y a toute cette réflexion-là aussi de bouger, de se dire je vais pas bien travailler, mais en fait de se connaître avant tout. Et de pouvoir profiter de cette théorie du blocage en se disant, je sais que dans telle situation, je me sentirai comme ça ou je serai comme ça, donc je vais faire ça. Par exemple, une théorie du blocage possible qui va avec le fait de bouger et qui n'est pas forcément un problème de riche, on peut savoir que je suis créatif dans un système ou que les doctorants qui ont un directeur de thèse pas trop relou et qui laissent un peu faire de télétravail, on sait très bien, il y en a qui savent télétravailler, d'autres pas télétravailler, mais essaye peut-être de réfléchir un peu plus finement à qu'est-ce que tu sais faire en télétravail ou qu'est-ce que tu ne sais pas faire en télétravail. Parce que je pense qu'en fait, ça dépend aussi des tâches. Et ça peut être pareil en vacances. Qu'est-ce que tu es capable de faire en vacances et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire en vacances? Moi, je sais maintenant que faire des entretiens, j'ai pas besoin d'avoir toute ma tête pour le faire, surtout quand je suis rodé et que je connais mon guide. Par contre, je sais aussi que pour écrire un article scientifique, il me faut 3-4 jours à fond, où j'ai que ça à faire, mais que je suis pas obligé d'être chez moi. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, si je dois faire une formation à distance, là, il me faut mon bureau, il me faut mon double écran, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses selon le type de tâche que je sais faire, que je sais. Que je me connais et que je sais être productif selon le lieu dans lequel je le fais. Et je trouve que c'est un apprentissage de soi-même qui permet de pouvoir travailler plus efficacement dans différents lieux. Voilà globalement ce que j'avais à dire, me semble-t-il. Et aussi, il y a un dernier point, mais qui est une montagne, hein. C'est facile à dire, mais c'est une montagne à accomplir. C'est, bah, en fait, c'est quand même très lié au stress, tout ça. Et quand on arrive à relâcher la pression, eh ben, on peut. En fait, c'est beaucoup lié à des croyances et à du stress. En fait, pour reprendre, le fait d'avoir de la charge mentale et de la peur de travailler de loin, c'est, je pense, lié à du stress, lié à des croyances qui fait qu'on ne va pas être performant, on n'est pas bien là, je ne suis pas capable de lire dans ces conditions. Mais en fait, on s'y fait. Et en fait, dans ces conditions, eh ben, on peut trouver des sous-conditions dans lesquelles ça va. Par exemple, en fait, il y a peut-être une pièce dans votre maison de vacances ou dans ton hôtel dans lequel tu es plus à l'aise et tu arrives à te focus. Il y a peut-être un type de musique qui te focus. Il y a peut-être une heure de la journée qui est différente en vacances de quand tu travailles qui va te permettre d'être plus productif. En fait, je pense qu'il faut pas non plus refuser tout train de vie et essayer d'affiner à chaque fois les règles. Moi, c'est un peu ce que je découvre. C'est le travail qui a été fait avec mon psy, mais c'est aussi le travail de ce développement personnel là qui se fait depuis 1 an et demi. C'est qu'en fait, à chaque fois, c'est difficile de refuser une règle ou de l'accepter totalement, mais c'est surtout on rajoute une condition. Par exemple, j'ai commencé en disant je travaille mieux le matin. Bah oui, mais en fait, je travaille mieux le matin, sauf s'il y a un truc qui me stresse. Ah oui, mais et du coup, si je fais un truc qui me stresse, vaut mieux le faire tout de suite. Et en fait, à chaque fois, il y a des règles à ajouter. Donc, je pense que la leçon la plus saine à retenir de cet épisode, c'est ne pas se refuser de dire je ne suis pas fait pour ça ou je suis fait pour ça, ce train de vie, etc. Mais plutôt, comment je fais pour atteindre cet objectif ou ce train de vie? Et est-ce qu'il n'y a pas une sous-condition qui me permet de le faire? Donc, je suis parti du sujet de la logistique et la charge mentale liée à la logistique de changer. Et en fait, ce que je comprends un petit peu, c'est que cette charge mentale se compense en affinant notre activité par rapport à qui on est, en se préparant, en ajoutant des process sur ce qu'on fait, d'essayer de que tout élément de son travail qui revient souvent soit connu par cœur et qu'on sache par exemple comment se connecter. Enfin voilà, c'est par exemple c'est impossible de bouger et de pas savoir avoir accès à son mail facilement, de pas savoir ouvrir un environnement de partage de dossiers, de pas savoir enregistrer rapidement un entretien. Enfin parce que moi je fais des entretiens par exemple, il faut savoir faire son travail. D'autant plus facilement quand on bouge parce qu'il faut être encore plus flexible. Et puis voilà, dernière leçon pour rappel, processer, potentiellement essayer de faire les choses au dernier moment, mais moi je l'ai dit, c'est pas du tout un truc qui est de mon style, et essayer de réfléchir sur soi, sur le fait de déstresser, et quand même se dire que bouger pour 2-3 jours, ça reste quand même difficile. Ça me fait penser à une dernière règle pour compenser la charge mentale qu'on peut avoir quand on travaille à droite à gauche. C'est celui de reculer pour mieux sauter. Et que parfois, il vaut mieux faire une pause et profiter et reprendre dans de meilleures conditions que de essayer de continuer à travailler, de trouver des conditions pour bien travailler. Ça peut ressembler à l'inverse de tout ce que j'ai dit. Mais non, c'est encore une règle potentielle à ajouter en condition. C'est-à-dire que on peut essayer, on peut réfléchir, on peut se dire, mais là, je vais mieux y arriver avec cette tâche, mais là, mais je vais mieux faire ça. Mais il y a aussi un moment où on peut se dire, OK, là, j'arrive pas à travailler, je me repose bien. À la limite, je fais une sous. Je réfléchis vite fait ou je me note mes petites idées sur ce thème-là que je pourrais faire plus tard. Et j'en profite, je me repose. Et à la reprise, je bourrine, par exemple. Imaginons qu'on voulait travailler un week-end, vendredi, samedi, dimanche. On commence, on le sent pas, on n'arrive pas bien à travailler. Au lieu de se tuer à la tâche et d'être stressé, de se dire j'arrive pas à travailler, de se dire c'est pas grave, je prends mon week-end. Mais lundi, limite lundi, je me lève à 5 heures, je bourrine, j'envoie tout, je serai dans de bonnes conditions. Voilà tout ce que je peux partager sur ce sujet pour réussir quand même à travailler à droite à gauche. Donc pourquoi le faire quand même? Ça peut être un sujet. Du coup, pourquoi avec tant de complexité on peut le faire? Déjà, je sais qu'il y a des gens qui ont un certain moteur de liberté, de vacances, etc. Et que donc, ça peut être un frein de se dire, mais j'arriverai pas à travailler. Donc maintenant, peut-être que vous avez quelques idées. Mais aussi parce que on se prend en jeu. Et aussi, moi, ça me permet tout simplement de être plus heureux parce que je réponds à plus d'attentes de ce que je veux faire de ma vie. Et au lieu de m'enfermer à me dire non, je travaille, je ne peux pas faire ça, d'ouvrir un peu les horizons et dire mais en fait, je peux voir telle personne, mais je peux peut-être partir en vacances avec telle personne, je peux peut-être travailler là-bas. Et ouvrir cette notion de pouvoir travailler n'importe où, ça me permet d'être beaucoup plus épanoui personnellement, en tout cas, dans mes relations sociales. Et c'est pour ça que le jeu en vaut la chandelle, même si aujourd'hui, j'appliquerai un peu plus les conseils dont je t'ai fait part aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce podcast a été utile, au moins intéressant ou inspirant, motivant. N'hésite pas à écouter les autres épisodes ou les autres saisons, parce que je rappelle que les autres saisons sont dans un autre podcast. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Je te souhaite une très bonne semaine, potentiellement de bonnes vacances. Et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.